Bonsoir à tous et bienvenue, comme toutes les semaines, tous les mercredis en particulier, à l'écoute d'Alter Echo avec cette fois-ci Olivier et Nico. Alter Echo, c'est en direct le mercredi soir sur Radio Campus 107.2 à 22h, rediffusion toujours sur Radio Campus le vendredi après-midi à 14h et puis la rediffusion un peu aléatoire dans les horaires sur Radio Panique 105.4 qui est normalement prévue le mardi matin vers 10h. Il y a aussi le site internet d'Alter Echo, www.collectif au pluriel.net/alterecho. Aujourd'hui, nous avons deux sujets à vous proposer. Tout d'abord, le sommet européen de Barcelone qui s'est terminé samedi après-midi. Alter Echo avait évidemment envoyé un envoyé spécial qui est ici en studio, c'est Nico. Et pour la seconde partie de l'émission, nous reproduirons une interview de Thierry Messant, l'animateur du réseau Voltaire, qui a sa petite idée sur les événements du 11 septembre. C'est une interview qui est passée à la télévision, mais qui vaut bien d'être relayée. On vous expliquera pourquoi. Alors voilà, tout d'abord, je vous le disais, le sommet de Barcelone, où nous avions envoyé d'un commun accord Nico. Nico, raconte-moi Barcelone, c'était sympa. On aura l'occasion d'y revenir, mais.
C'était pas mal, mais donc je m'y suis envoyé tout seul. Hein. Ne croyez pas, on m'a pas financé ou quoi que ce soit. C'était sympa à Barcelone. Ça, en ce qui me concerne, ça ressemblait un petit peu aux autres sommets, avec un petit peu moins de nouveautés. Et c'est vrai, une
En fait, tu es
manifestation.
plutôt allé au contre-sommet quand même qu'au
C'est
sommet
plutôt, oui, de
officiel.
toute façon, il était inimaginable que je passe les murs de la zone rouge, n'étant pas un journaliste accrédité ou un richissime adjoint de ministre européen. Voilà.
Bon, alors moi, de mon côté, bien au chaud, je n'ai eu qu'à lire la presse sur le même événement. Donc, je te propose de
Ouais, moi
faire une petite revue de presse et si tu as des remarques par
j'étais
rapport à la
encore,
réalité.
j'étais sûrement beaucoup plus au chaud que toi, mais j'ai beaucoup moins lu que la presse. J'avais d'autres choses à faire. Mais je
D'accord.
t'écoute, je vais découvrir.
Voilà, bah donc la presse, en fait, c'est un peu le scénario habituel, évidemment. À partir de jeudi, pour les plus assidus, c'est les préparatifs. On y va soit d'un petit article sur les enjeux, soit d'un petit entretien avec une personnalité qui a un rapport avec ce sommet, ou non d'ailleurs, puisque c'est la Libre Belgique qui ouvre le feu
Mais un petit,
jeudi.
si je peux, je
Vas-y.
suis désolé de t'interrompre, mais c'est parce que peut-être il faudrait rappeler le calendrier. Tu parles à partir de jeudi. En fait, la plupart des sommets européens ont lieu le week-end. Et en général, comme ça a eu lieu à Nice, comme ça a eu lieu à l'occasion du sommet de Laeken chez nous, les syndicats en profitent pour manifester le jeudi, donc la veille du sommet, histoire de ne pas trop bouleverser le dispositif policier qui est surtout mis en place quand les délégués européens arrivent dans la ville, c'est-à-dire le vendredi. Donc le jeudi.
Et les mauvaises langues ajoutent que ça permet aux syndicalistes de faire le pont, peut-être le vendredi.
Quelle horreur, qui dit ça?
J'ai capté ça comme
Donc,
ça
en
dans les
effet,
résultats.
le jeudi à Barcelone, la contestation au sommet européen commence à se faire sentir avec la manifestation des syndicats. Et puis, le véritable sommet officiel et le contre-sommet dit des altermondialistes ou des anticapitalistes, des anti-européens, ont lieu les vendredis et samedis, donc en vis-à-vis des véritables moments de réunion
On
officielle.
peut ajouter aussi un mot, si vraiment vous n'avez rien suivi. Donc, les sommets européens se passent en général dans le pays qui assure la présidence de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il y avait eu Laeken en décembre, puisque la Belgique assurait cette présidence à ce moment-là pour 6 mois. Maintenant, c'est au tour de l'Espagne. Donc, il y a plusieurs sommets qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu en Espagne. Il y a eu Barcelone notamment maintenant. Et il y aura aussi pour la fin de la présidence le sommet de Séville. Alors là, pour Barcelone, on prévoyait surtout un agenda de libéralisation et de flexibilisation du marché de l'emploi, etc., etc. Il faut dire aussi que chaque fois, l'agenda des sommets européens et des présidences sont évidemment liés aux sensibilités qui sont celles des gouvernants en place dans le pays qui assure la présidence. En l'occurrence, c'est José María Aznar, qui est, disons-le, très conservateur, très libéral. Et donc ça s'est vu effectivement dans l'agenda du sommet, puisque on a surtout parlé, on le verra plus tard dans l'émission, on a surtout parlé libéralisation, en l'occurrence, du marché de l'électricité et du gaz, donc de l'énergie. Et voilà, ça en inquiétait certains et ça a aussi peut-être participé à la grande mobilisation qui a eu lieu contre ce sommet européen de Barcelone. Mais donc, je vous disais que la Libre Belgique ouvrait le tir jeudi par un petit entretien simplement de Anna Diamantopoulou, qui est la commissaire en charge de l'emploi et des affaires sociales. Donc la commissaire européenne en charge de l'emploi et des affaires sociales. Et évidemment, elle se sent un peu mise de côté parce que pour ce sommet, on le verra plus tard aussi dans la revue de presse, normalement les ministres de l'emploi sont conviés. Bah là, pas du tout. Tout ce qui était ministres sociaux était gentiment prié de rester chez eux, tandis que les ministres des Finances, grande première, étaient invités. Ça en dit long un peu sur les priorités de cette présidence. Et donc, une seule phrase finalement à retenir de cette interview, on se lamente un peu sur le fait que le social passe au second plan, etc. Et la seule phrase que moi j'ai relevée est également la phrase que la journaliste Sabine Verhest a relevée, puisqu'elle l'a mise en titre de son article. À un moment donné, donc c'est une interview où la journaliste pose une question, il semble qu'on devra attendre la présidence grecque en 2000 pour aller plus loin, donc en matière sociale. Et là, la commissaire européenne, qui me paraît fort impuissante, dit, comme le dit un saint grec, la dernière chose qui meurt, c'est l'espoir. Donc, c'est une réponse très éclairante sur la puissance d'action que cette dame croit avoir. C'est un peu un constat tristounet. Ensuite, le vendredi, c'est de nouveau le schéma tout à fait classique dans la presse, c'est-à-dire qu'on parle de la préparation du sommet, mais plus d'un point de vue de préparatif matériel, c'est-à-dire que, bah, par exemple, dans The Morgen, on apprend dans le titre que la peur de la violence pendant le sommet européen pousse l'Espagne jusqu'à l'extrême. Effectivement, la photo en dit long aussi, on voit juste l'épaule d'un comment il s'appelle? D'un
C'est
guardia
qu'il
civiliste.
y a autant de corps qu'en
Qu'en
Italie, donc
Italie,
c'est
oui,
très
donc c'est
compliqué.
très varié. Mais donc, d'un homme armé, on voit juste le bout de son flingue, des barrages, etc. Et donc, là, on nous décrit le dispositif. Classiquement aussi, le traité de Schengen a été suspendu, ce qui a permis notamment aussi à l'Espagne et à la France de retenir des autocars, notamment français et belges, ceux de D14, entre autres, à la frontière franco-espagnole. Donc, y compris aux aéroports aussi, il y avait deux chasseurs-bombardiers F-18 qui croisaient dans le ciel barcelonais, assistés par deux avions de jet C-101. Enfin, sur les numéros, on va pas s'étendre. Si besoin était, ils pouvaient être soutenus aussi par un AWACS de l'OTAN. C'est un gros avion radar,
Qui
un
était
espèce
là,
de gros
qui
avion de
était là,
ligne avec
survolait
une
Barcelone,
soucoupe sur le
tout
dos.
à fait.
Et donc, tu l'as vu.
Je ne l'ai pas vu, mais
Il était
on
là.
en parlait beaucoup.
Et donc, dans la Méditerranée, il y avait une frégate de guerre pour si jamais. Enfin,
Des
vraiment, tout
navires de
était
guerre
prévu.
avec leur canons orientés sur le ciel de Barcelone, au cas où. Ouais.
Et il y avait aussi des rues qui apparemment étaient barrées par des ou coupées en deux par des barrières extrêmement hautes auxquelles pouvaient encore s'ajouter des barbelés si nécessaire et tout ça. Et on explique tout ça par, d'une part, de toute façon, la peur classique des antimondialistes.
Volant, des antimondialistes
Volant, oui,
volants,
tout à
voilà,
fait.
tout à fait.
La peur aussi d'un attentat similaire à celui du 11
Volant,
septembre et
l'attentat volant.
également le fait que les séparatistes basques étaient là et qu'on craignait éventuellement un attentat de l'ETA. Bon, tout ça justifiait sans doute
Un
ce
attentat
déploiement
volant,
militaire.
tout à fait.
Dans la Libre également, dispositif. Là, c'est déjà vendredi, donc la manif syndicale a eu lieu le jeudi. La Libre, non, c'est le soir, pardon, annonce qu'il y a eu 100 000 manifestants qui sont descendus dans les rues de la capitale catalane. On reprend le dispositif. J'avais oublié de dire, ou c'est plutôt De Morgan qui avait oublié de dire qu'il y avait 8 500 policiers, quand même 11 000 de moins qu'à Gênes.
Mais excuse-moi de t'interrompre, ces journalistes en général s'offusquent un petit peu du dispositif ou
Non, pas du tout,
le...
c'est écrit de façon tout à fait neutre, comme le temps qu'il fait,
On
quoi.
décrit, on décrit.
Ouais. Et alors, le titre là de l'article préparatif du soir est extrêmement subtil, c'est « Le sommet de Barcelone s'annonce électrique », parce que ça permet de jouer sur les deux tableaux. D'une part, il s'annonce électrique parce qu'on risque les
Ah,
meutes, et
joli,
d'autre
joli.
part,
Ils sont très
les
très
questions
forts au soir,
d'énergie vont
toujours.
être abordées. Et donc là, on commence visiblement à se poser des questions sur les enjeux des sommets, aussi bien dans le soir que dans la Libre, et on met énormément l'accent sur la libéralisation, et on va voir un peu plus loin qu'il y a un certain double discours qui se développe, c'est-à-dire d'une part, mais qu'est-ce que c'est que ce social qui reste dans le coin, c'est libéralisation à tout crin, etc. Mais finalement, quand on lit un peu entre les lignes et qu'on regarde la façon dont ils formulent leurs phrases, on se dit que finalement, ça leur plaît beaucoup. Enfin, on y reviendra. Mais donc, on se pose des questions. Le sommet de Barcelone risque-t-il de balayer les acquis sociaux de la présidence belge? On peut le craindre. Les ministres sociaux, donc Laurette Onkelinx et Frank Vandenbroucke pour les Belges, seront en effet absents de la réunion qui devait pourtant consacrer des heures à débattre de la réforme des marchés du travail. Ils ressentent d'autant plus mal leur mise à l'écart que leurs collègues de l'économie et des finances seront, eux, aux côtés des chefs de gouvernement. Une première. Ça a d'ailleurs donné lieu à un petit crêpage de chignon entre Laurette Onkelinx et Didier Reynders. On souligne aussi que sous la présidence belge, l'accent a été mis sur la qualité de l'emploi, tandis que la réunion de Barcelone affiche d'autres priorités, réduction de la fiscalité et accélération de la flexibilité sur le marché du travail. Et alors là aussi, il y a un petit entretien de préparation, parce que le soir n'avait rien fait jeudi, donc ils se rattrapent un petit peu. Ils ont interviewé quelqu'un du World Wildlife Fund, enfin c'est comme ça qu'ils l'écrivent, en fait c'est devenu le World Wide Fund for Nature, et c'est monsieur Tony Long, et ce monsieur dit que le sommet de printemps, donc celui-ci, je pense, avait pour mission d'évaluer l'évolution des politiques de développement durable et d'affiner les indicateurs susceptibles de mesurer les progrès réalisés en matière de développement durable. Eh bien non. Finalement, il y avait plein de ministres qui n'étaient pas très d'accord de tous les États membres. Verhofstadt a essayé de corriger le tir. Non, je m'embrouille un petit peu là dans mes notes, c'est pas grave. En tout cas, ce monsieur-là n'est pas très content et il est rejoint par un observateur belge de premier plan, mystérieux, mais qui est néanmoins cinglant, qui dit la présidence espagnole ne souhaite pas respecter les engagements de Göteborg, donc en matière de développement durable. Parmi les priorités économiques, sociales et environnementales, elle juge qu'il y a des priorités, donc elle fait une hiérarchie des priorités, et c'est la libéralisation des marchés et les réformes structurelles. Même le volet social est mis en veilleuse. Et voilà, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Ce qu'il faut dire, c'est aussi que ce sommet servait à évaluer les objectifs de Lisbonne, qui était un sommet européen d'il y a 2 ans, où on s'était dit pour 2010, l'Europe doit être au point, c'est-à-dire doit être l'économie de la connaissance, la société de la connaissance la plus compétitive au monde. Et tout ça devait s'articuler autour de facteurs aussi bien économiques que sociaux qu'environnementaux. Et visiblement, c'est vraiment l'économique qui prend le pas.
Moi, si je peux revenir,
Tout à fait.
tu comparais tout à l'heure le sommet de Laeken et celui de Barcelone. Moi, j'ai quelque chose qui m'a frappé. Bon, ça va paraître un détail, mais on parlait tout à l'heure, on se disait au fond, ces sommets sont souvent beaucoup plus l'occasion d'un déballage symbolique et superficiel, c'est-à-dire l'Espagne va montrer à quel point elle est apte dans ses capacités à s'organiser, à recevoir un sommet très chic. Elle va pouvoir assurer les transports, la sécurité de tout le monde. Et à Laeken, bon, Verhofstadt et Timmermans ont fait un petit peu le ont frimé de la même manière, genre regardez comme vous êtes bien reçus chez nous, on est décidément les plus forts. Tout ça au détriment d'un véritable travail politique de fond en
Oui, tout
général.
à fait, mais
Et je me souviens avoir vu à la télévision espagnole, comme j'avais vu à l'époque à la RTBF, des longs reportages sur ces journalistes de télévision qui vraisemblablement s'emmerdent, je veux pas être dur, mais et qui faisaient des reportages, je sais pas si vous en rappelez, sur leur propre salle de presse. Donc la
ouais.
RTBF et RTL TV ont fait des sujets sur qui sert la bouffe, qui nettoie les
Et qu'est-ce qu'il y a dans
verres.
les assiettes?
Voilà, qui a
Ouais.
installé les ordinateurs. Et en Espagne, on a eu droit à la même chose. Et je dois dire que la salle de presse était d'un luxe, mais scandaleux. C'était vraiment des milliers d'écrans plats, dernier cri, des restaurants gratuits qui tournaient en permanence. Et on voyait des gros plans marrants sur des journalistes en train de jouer au solitaire sur leurs sublimes écrans plats. Et moi, ça m'a profondément choqué, déjà quand on pense au pognon que ça coûte et au symbole par rapport au journaliste qui est là-bas complètement bercé et accueilli chez des gens dont il devrait décrypter le travail et pas.
Effectivement, mais en fait, c'est marrant que tu abordes le sujet parce que justement, c'est une question que les Européens, les eurocrates commencent à se poser. C'est-à-dire que ces sommets sont vraiment toujours assez caricaturaux, quelques types retranchés dans une forteresse d'une part et plein de gens dans la rue de plus en plus fâchés, de plus en plus nombreux et de plus en plus fliqués aussi d'autre part. Et ces sommets aussi sont toujours annoncés en grande pompe et finalement accouchent en général d'une souris. Et donc, on commence à réfléchir sur une réforme de ces sommets et on a chargé Javier Solana de réfléchir à ça et effectivement quand même visiblement il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche et donc il a formulé quelques propositions Ben notamment, les conclusions des sommets devraient être beaucoup plus restreintes, c'est-à-dire qu'en général, ils accouchent d'un livre de conclusions d'une trentaine de pages avec des choses vraiment hallucinantes, et ça, c'est bien que la Libre Belgique les ait relevées. Ben, donc notamment, par exemple, le sommet de Barcelone, comme d'autres avant lui, a accouché d'une trentaine de pages dont l'imagination, la profondeur et la concision pertinente ne sont indéniablement pas les qualités principales. On perçoit comme une ironie dans cet article. Et donc, à côté de quelques décisions, le texte enfonce des portes beaucoup plus ouvertes les unes que les autres, notamment des citations, des passages, des conclusions. Le Moyen-Orient est en proie à une crise extrêmement grave. Bravo, très observateur. La zone euro est une union monétaire soumise à une politique monétaire unique. On leur reproche de ne pas être assez didactique, là, il me semble qu'on peut difficilement faire mieux. Ou encore, un État-providence actif doit encourager la population à travailler. C'est effectivement le principe de l'État-providence actif. Enfin bref, il y a d'autres propositions, donc notamment la suppression de tous les rapports, conclusions ou procédures parasitaires qui encombrent les sessions, la limitation drastique de la taille des délégations. Bah, déjà à Barcelone, rien que les Belges qui avaient une délégation modeste étaient une quarantaine, donc on imagine le nombre de gens que ça déplace, et avec tous les repas qui s'ensuivent, les
Ouais,
nuits d'hôtel,
mais enfin,
etc.
a priori, ça me dérange pas qu'il soit plus que 15 à prendre des
Non, non,
décisions,
mais
moi.
tout ça cadre dans un peu un bémol qu'ils ont envie de mettre sur ces sommets. À mon
J'ai
avis,
envie
c'est
de
pas à tort quand
limiter
même.
les frais, peut-être,
Oui,
ouais.
aussi. Oui. Et puis la suppression en principe de toutes les activités annexes, comme les réunions avec des tiers. C'était aussi devenu une petite compétition entre États qui assuraient la présidence, d'arriver à inviter un invité prestige à leur sommet de clôture. Par exemple, en Suède, ils avaient eu George Bush. Pour Barcelone, je crois qu'ils ont failli avoir Poutine et puis ils l'ont pas eu au dernier moment. Tout ça, effectivement, est souvent une affaire de prestige.
C'est pas de chance parce qu'il paraît que Poutine est un bout en train.
Ben, je suis content de le savoir.
Il le cache, mais il semblerait qu'il ait toujours des
Mais
blagues.
tout ça pousse, et ça je trouve vraiment très pertinent, Solana à remettre en cause la notion de présidence tournante. Donc il dit, dans la Libre, on dit Solana fustige l'exercice de la présidence de l'Union qui est désormais devenu un enjeu de prestige national. La médiatisation de la fonction conduit à une dramatisation excessive et crée une pression du bilan qui nuit à la qualité des travaux. Moi, ça me paraît assez évident, effectivement. Je ne sais pas ce qu'il compte mettre à la place, mais bon.
Et moi, je me dis, cette critique a l'air assez formelle. Moi, le problème, c'est sur quelles sont les décisions et sur quel plan et avec quelle profondeur elles sont abordées.
Certainement, mais la
Qu'ils
forme ne
fassent
nuit
des
pas
conneries,
nécessairement au fond, quand elle va dans un bon sens,
c'est
quoi.
vrai, mais qu'ils fassent des conneries à 15 ou à 200,
Tout à
peut-être
fait.
qu'il y aura d'autant moins de visibilité que le sommet est plus petit.
Ouais.
Voilà.
C'est un risque, effectivement, mais je pense que c'est quand même intéressant qu'ils se sentent obligés d'y
Voilà.
réfléchir. Ça prouve qu'il y a peut-être, qui sait, un certain impact de la rue. Enfin bref. Donc nous en étions à la préparation du sommet, les articles du vendredi où la manif syndicale avait déjà eu lieu. On en parle d'ailleurs dans la Libre Belgique. On dit qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'était une manifestation bruyante, colorée, sans aucun incident. Bref, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'était une manif syndicale comme on les a à chaque sommet. La presse insiste à chaque fois sur le côté bon enfant, le côté calme, sans échauffourée, etc. Et aussi les revendications, bah, c'est toujours les mêmes. Une Europe plus sociale, mais on ne crache pas du tout sur la croissance, le plein emploi et des notions pareilles.
Dis-moi, quand les syndicats réclament une Europe plus sociale, ils misent sur le fait qu'elle est déjà un petit peu sociale, c'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que t'en penses?
pas grand-chose, je ne suis pas syndicaliste. Toujours dans la Libre, le même jour, une analyse du sommet. Et là, dans le titre, on perçoit quand même ce que, enfin, disons, la pensée profonde de la journaliste de la Libre, c'est le sommet des rois de la libéralisation. Et effectivement, dans l'article, il s'agit beaucoup de libéralisation. On parle de la libéralisation de l'énergie, comme on le disait tout à l'heure, qui, à ce moment-là, n'a pas encore abouti. La décision sera prise le lendemain. Et donc, on revient sur Lisbonne, donc tous ces objectifs, être la meilleure économie du monde en 2010. Et le but, ce serait sans oublier de promouvoir le développement durable. Mais on voit que c'est un peu contradictoire parce qu'une fois, ils disent les progrès accomplis à ce jour sont encourageants, estime-t-on à la Commission. Par contre, on a vu ce qu'en disait la commissaire aux affaires sociales. Elle n'avait pas l'air du tout de partager cet avis-là. Comprenne qui pourra. Et oui, encore une phrase à ce sujet-là, je crois que c'est la même personne, estime-t-on à la Commission, c'est-à-dire l'Europe peut obtenir des résultats lorsque la volonté politique existe. Donc ça, à mon avis, ça dit tout. On obtient pas mal de résultats visiblement en matière de libéralisation et visiblement très peu de résultats en matière Volet social, voilà. Ensuite, oui, donc on parle toujours de libéralisation du marché de l'énergie. Pour la Libre Belgique, c'est le seul enjeu réel de la Réunion. Et on verra effectivement que dans les conclusions, c'est plus ou moins à ça que ça revient. Le Soir parle également dans les mêmes termes de cette manif syndicale. 60 000 manifestants dans le calme. Ils sont marqués par le refus d'inviter les ministres de l'Emploi au sommet. Et puis là, il y a une phrase intéressante de Jocelyne Piette, de la CSC, notre Jocelyne Piette, enfin leur Jocelyne Piette. Vu le peu de cas que l'on fait, donc il menace en fait. Vu le peu de cas que l'on fait de milliers de manifestants, je pense que la Confédération européenne des syndicats devrait revoir ses méthodes d'action. Alors on se dit, là, les syndicats, ils vont s'habiller en noir, ils vont commencer à casser des banques et des bagnoles. Pas du tout, je ne dis pas que ce serait nécessairement souhaitable, mais la modestie des objectifs frappe parce qu'il dit, à chaque sommet, par exemple, les travailleurs se croiseraient les bras pendant 1 heure. Merde, l'Europe va vaciller sur ses fondations.
Ouais, ça serait
Enfin bref. Ou
énorme.
peut-être qu'après un temps, ce serait 2 heures, puis 3 heures, puis 1 semaine, parce
Mais
que, à
déjà,
mon
si les
avis, ils ne seraient pas
syndicats
beaucoup plus
avaient
écoutés.
la bonne idée d'organiser des manifs en dehors des jours de travail, ce serait déjà pas mal, hein.
Ouais, c'est clair, c'est à ça qui passerait, à mon avis. Et puis, toujours dans le Soir, non, c'est dans la Libre, excuse-moi. Dans la Libre, un article donc d'analyse sur l'Europe sous haute tension, c'est-à-dire sur le marché de l'énergie. Et là, on comprend plus très bien parce que, d'une part, ils ont l'air de se plaindre de cette libéralisation à tout crin et ce manque de volet social. Par contre, là, on lit alors le sommet de Barcelone permettra-t-il enfin de définir des dates pour l'ouverture totale à la concurrence? Ce serait donc on dit ce serait pas tout de suite, ce serait d'abord pour les entreprises et puis pour les ménages. Mais bon, tous ces atermoiements, au moins les décisions seraient prises et ce serait déjà une grande victoire. Et donc, on explique aussi que la France est la seule à bloquer un peu le dossier parce qu'elle veut protéger l'EDF, paraît-il. Et là, et pour justifier sa position, écrit, je crois que c'est Rachel, non, c'est pas Rachel Crivellaro, c'est signé d'initiale, mais donc les journalistes qui écrivent ça disent, et pour justifier sa position, la France se retranchera une fois de plus derrière la garantie de service public, avec un point d'exclamation comme pour dire, c'est vraiment scandaleux. Donc, on ne sait plus très bien ce qu'en pense ce journal. Ça dépend sans doute aussi de l'opinion individuelle des journalistes. Et puis, ouais, pour conclure cet article, on parle des effets de la privatisation et de la libéralisation du marché de l'énergie, en disant, si l'on s'en réfère aux chiffres affichés par les deux pays européens qui ont déjà franchi le pas de la libéralisation, on devrait s'attendre à des tarifs de plus en plus compétitifs dans ce secteur. C'est effectivement le but. Par contre, moi, j'ai entendu Chirac à France Inter déclarer que, en Suède, par exemple, les prix avaient augmenté au lieu de baisser, en tout cas pour les ménages, donc il ferait bien de se mettre d'accord. Ensuite, les articles de samedi et dimanche, donc là c'est le jour de clôture du sommet, mais les décisions ne sont pas encore connues. Grosso modo, comme on n'a pas grand-chose à dire, puisqu'en plus le vendredi, me semble-t-il, il n'y a eu que des actions très éparses et disparates. Tu confirmes?
Tout à fait.
Donc, dans l'édition de samedi, il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire, ni conclusion, ni mort, ni blessé, ni échauffouré, ni rien. Donc, on reparle du processus de Lisbonne, on reparle de l'énergie, etc. Notons quand même le titre du Soir qui dit « Les 15 ne veulent pas de social au menu », ce qui me paraît assez clair. Et on dit aussi, donc faute d'aborder de face la question sociale en matière d'emploi, etc., Barcelone a tendu la main aux plus pauvres. Et là, c'est formidable, vraiment, c'est d'une générosité époustouflante. En prévision du sommet de Monterrey au Mexique, donc c'est une conférence internationale sur le développement qui a lieu en ce moment, les 15 promettent d'ouvrir davantage leur portefeuille et de consacrer un jour, entre guillemets, 0,7% de leur PNB à l'aide aux pays en voie de développement. La fameuse norme de 0,7% prônée depuis de toute éternité par les Nations Unies. Donc c'est un jour. Mais les États membres retardataires ont jusqu'en 2006 pour se hisser au niveau de la moyenne communautaire de 0,32% à 0,34%. Donc on n'est même pas encore à la moitié, mais on ne doit pas arriver à la moitié jusqu'en 2006 et après on verra. L'objectif serait de faire remonter cette moyenne jusqu'à 0,39% pour 2006. Enfin vraiment des objectifs. Modeste est un bien faible mot, c'est en fait carrément. Et alors là, le Soir, ose dire qu'ils ouvrent leur portefeuille. C'est un peu limite, limite. Voilà. À part ça, ben oui, on reparle de libéralisme dans le Soir, en parlant notamment aussi de ce fameux axe. qui s'est créée pour contrer un peu l'axe franco-allemand entre Blair, Berlusconi et Aznar, qui eux se sont fendus d'une déclaration commune au nom de la croissance, de la libéralisation des marchés, de la flexibilité du travail. Ils n'ont vraiment que ces mots-là à la bouche. Et dans un éditorial final de La Libre Belgique, Rachel Crivellaro souligne même avec une certaine ironie, donc on allait parler de flexibilisation du marché de l'emploi et de l'intégration des marchés en clair. Oui, voilà. Valeurs mobilières, ferroviaires, énergie, travail, etc. Rien ne devrait résister au marché unique. À Barcelone, les 15 ont appelé à une révision de la réglementation du marché du travail dans le but de favoriser la création d'emplois. Et puis, joignant l'acte à la parole, Silvio Berlusconi, pour ne citer qu'un exemple, a déjà répondu à cette prière en supprimant un article de la réglementation italienne qui protégeait les travailleurs contre un licenciement abusif. Donc, pour créer de l'emploi, on vire plus facilement. C'est rigolo. Voilà, en fait, on n'a plus tellement le temps de détailler tout ça de fond en comble, mais grosso modo, il me semble qu'on a dit le principal, à part le gros sujet, c'est-à-dire la manifestation du samedi, qui est en clair la plus grosse manifestation anti-mondialisation qu'il y ait déjà eu, que ce soit en marge d'un sommet européen ou ailleurs, quoi.
Ouais, moi
Il devait y avoir une marée humaine, c'est d'ailleurs ce que disent tous les journaux.
Ouais, en effet, j'étais à la manif du samedi, j'ai pas grand-chose à en dire de plus que les journaux, puisque en l'occurrence une manif de 200 000 à 300 000 personnes, quand on est dedans, on voit pas grand-chose. A priori, tu parles de manif anti-mondialiste, je pense que c'était plus, mais
Elle était divisée apparemment, il y avait
mais
plusieurs blocs. Ouais.
il m'a semblé, c'est ce que disent aussi les bulletins d'information d'attaque, que la plupart des drapeaux étaient en catalan. Donc je pense qu'il est venu se greffer et que le chiffre n'est pas vraiment un baromètre du niveau d'anti-mondialisme ou
Ben,
d'anti...
entre 300 et 500 000 personnes, selon les organisateurs, 500, 600 000, quelque chose comme ça, c'est quand même pas rien. Et même s'il y avait sans doute beaucoup de séparatistes, apparemment le bloc du milieu dans la manifestation était composé de séparatistes. Je sais pas, même si on enlève cela, on peut dire que c'est apparemment une mobilisation assez impressionnante, non?
Oui, tout à fait. C'est tout à fait une mobilisation carrément impressionnante, mais dans quelle mesure elle est représentative d'un discours anti-européen? Je crois que c'est plutôt une volonté d'autonomie de la région. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec cette manif dont tout le monde a beaucoup entendu parler. C'est quelque chose sur lequel on a moins enfoncé le clou, c'est ce fameux blocage de certains bus de manifestants français et belges à la frontière.
Oui, tout
Moi,
à fait. Il y a trois
je...
bus de D14 qui se sont
Mais
fait
c'est ça, il y a
reculer.
environ 2 000 personnes qui ont été bloquées. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Je pense par exemple au bus belge. Je peux affirmer, parce qu'il y a des gens qui étaient dans ce bus parce que je les connais, mais je ne vais pas la défendre mes amis. Je dis ça tout à fait sérieusement. Je suis sûr que personne ne pourra affirmer qu'il y avait dans ces bus quiconque avec des antécédents pénaux.
Ah, pourtant, dans les journaux, on dit qu'on a trouvé des haches
Mais
et
donc.
des tuyaux en aluminium pour tirer des roquettes ou des pétards ou je sais pas quoi, mais en tout cas, du matériel violent, quoi.
Ouais, ce qui n'a aucun sens dans le bus de D14, puisque la coordination D14 est pleine de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui savent quel risque ils couraient en passant la frontière avec un bus. Donc, ils se sont évidemment pas munis d'un quelconque matériel qui pouvait les rendre suspects. Mais donc, à partir du moment où on est convaincu, et je pense que personne, pour ce qui est du bus D14, ne pourra prouver le contraire, que les gens qui sont à l'intérieur ne peuvent pas être suspectés ou n'ont jamais, enfin, tout le monde pourrait être suspecté, mais il y a quand même une présomption d'innocence. Qu'aucun de ces gars ne s'est porté coupable de crime ou de délit et qui a été accusé, bien, tous ces gens jusque-là ont été simplement condamnés, en tout cas bloqués, en fonction de leurs opinions affichées et
Tout à
avouées.
fait,
C'est-à-dire
bloqué,
que,
photographié, fiché,
voilà,
etc.
moi je suis parvenu à passer la frontière et ça, c'est les gens qui nous entendraient et qui voudraient à l'avenir participer à des contre-sommets, il faut évidemment, et c'est une honte, mais c'est vrai, il faut évidemment cacher ses opinions politiques au moment de passer la frontière.
On fait comment?
Pas
On se coupe les cheveux?
d'autocollants, pas de prospectus, voilà. Et alors se couper les cheveux. Bon, à Barcelone, le jeudi, j'ai passé 2 heures dans une gare et la Guardia Civil s'amusait à contrôler évidemment tout ce qui pouvait être un peu basané, parce que je pense qu'ils s'amusent à faire ça tout le temps. Mais tout ce qui pouvait être suspecté comme un gauchiste, bon, les critères varient, mais par exemple une veste pleine de badges, un écusson antifasciste, des dreads ou des cigarettes roulées ou une canette de bière à la main, tout était bon.
Est-ce qu'avec un écusson fasciste, on se ferait contrôler? C'est la question qui reste en suspens.
Oh, en Espagne, de moins en moins, je pense. Mais en tout cas, pas quand ces gens craignent surtout des mobilisations de gauchistes. Mais donc moi, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister pour tout le monde qui nous écoute, c'est qu'il est, à mon sens, intolérable de ne pas défendre la liberté d'expression. Et à l'heure actuelle, ce à quoi on a assisté, c'est 2000 personnes bloquées. C'est vraiment des gens qui ont été présumés coupables à partir de leurs idées politiques. Des gens
Et
qui n'avaient
présumé coupable de vouloir s'exprimer aussi
tout à fait.
simplement.
Des gens qui n'ont pas. On parle de fiches, ça n'est pas vrai. Ces gens, évidemment, n'ont pas d'antécédents. Autrement, ce serait beaucoup plus facile. Et enfin, en dehors de Schengen ou sous Schengen, on pourrait de toute façon les bloquer. Ce sont des gens qui ont eu le malheur d'afficher leurs opinions au moment de passer la frontière.
Tout à fait. Mais il y aurait encore énormément de choses à en dire parce que notamment la revue de presse n'est pas terminée. Il y avait des journaux qui parlaient, qui mettaient en avant quand même le fait que la police avait attaqué un peu au hasard, notamment avec des balles en caoutchouc, ce qui peut faire extrêmement mal. Mais
Oui, ça
évidemment.
c'est évident. Une chose dont on pourrait se choquer, c'est la violence généralisée de la police espagnole. Moi, j'ai assisté pendant deux manifestations à des charges policières. Une où simplement on faisait un espèce de gros sit-in debout, mais enfin on était immobile. On était environ 200. Et la police a tout à coup entamé une charge, mais vraiment, genre, on en a marre d'attendre, on vide la place. Ils tapent tout le monde très fort dans les jambes, ils piétinent les gens qui tombent, poursuivent les gens qui ne sont pas encore tombés. Et moi, j'ai eu un petit peu de peau sur ce coup-là avec les copains qui j'étais. On était 3-4, là, on est parti au bon moment dans la bonne ruelle. Mais la fille qui était derrière moi, mais vraiment à 1 mètre ou 2 derrière moi, elle devait avoir 18-20 ans, a eu beaucoup moins de chance que moi. Elle a trébuché et elle s'est immédiatement pris 4 gros policiers sur la gueule. Et au bout de quelques secondes, elle ne bougeait plus, quoi. Et je trouve que c'est vraiment le genre de choses que les gens que vous voyez ça à la télévision, vous êtes peut-être habitués, c'est quelque chose vraiment qui est intolérable. Et à force de le tolérer, les blocages aux frontières pour les opinions politiques, les passages à tabac de gens qui n'ont rien fait d'autre, de nouveau, cette fille n'a pas allumé de bombe, n'a pas menacé un flic, elle était au mauvais endroit au mauvais moment, elle a dit ce qu'elle pensait de manière tout à fait légale. Et pour ça, on vous bousille vos droits et votre intégrité physique. C'est quelque chose que personne ne peut tolérer, et je pense que tous les gens qui le tolèrent participent d'une espèce de montée de quelque chose de très sombre et très inquiétant.
Certainement. Il n'y a pas que ça qui est très sombre et très inquiétant et qui est en train de monter. On va le voir tout de suite. Pour conclure sur Barcelone, vous ne pensiez évidemment pas que Nicolas allait revenir sans son, mais le temps nous a manqué pour essayer de faire des montages. Donc ce sera pour la semaine prochaine.
Tout
On
à
aura
fait,
de l'ambiance
sans faute.
concrète de Barcelone et on pourra aussi aborder les sujets qu'on n'a pas abordés. Mais là, le temps nous presse parce qu'il y a encore une longue interview de Thierry Messant. Donc on passe tout de suite au deuxième sujet de cette émission. Thierry Messant est l'animateur du réseau Voltaire, qui est un. On expliquera dans l'interview de quoi il s'agit, ce qu'est le réseau Voltaire. Mais ce monsieur-là a des opinions très, très particulières sur le 11 septembre. Il a analysé des faits qui sont tout à fait évidents et accessibles à tous, et il en tire des conclusions plus qu'inquiétantes. J'avais déjà effleuré le sujet dans cette émission en vous disant d'aller voir sur le site internet www.asile.org et de cliquer sur Y a-t-il un avion dans le Pentagone? Là, c'était juste un petit élément de doute, mais qui était déjà, qui faisait déjà douter énormément. Et puis là, le livre est sorti en France, il va sortir en Belgique. C'est un livre qui s'appelle 11 septembre, l'effroyable imposture. Et voilà, dans l'interview qui suit, Thierry Messant va exposer un peu tout ce qu'il a trouvé dans son analyse des événements du 11 septembre. C'est une interview qui est passée dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, et qui est une émission qui a parfois comme ça, qui soulève parfois des sujets qui ne plaisent pas au JT ou quoi. Et il y a eu notamment une bonne interview dans l'affaire Schuller-Maréchal, et aussi il a reçu une ou deux fois, je crois, Denis Robert, qui est l'auteur
D'un sensationnel livre qui
ouais,
s'appelle
sur
d'ailleurs.
Clearstream, les transactions financières. Bref, voici l'interview. Donc, Thierry Ardisson commence par expliquer ce qu'est le réseau Voltaire.
Le réseau Voltaire, c'est une association de défense de la liberté d'expression qui part du principe que si on veut que ça soit la démocratie, il faut que les citoyens soient informés.
Absolument.
Absolument. C'est le soutien contre toutes les censures, le réseau Voltaire, c'est ça. Hein. Pas de subvention de l'État, ni de
Jamais.
collectivité locale,
Aucune.
donc indépendance assurée.
La
Voilà.
liberté totale.
Alors après le 11 septembre, Thierry Messant, vous êtes intrigué par des anomalies que vous remarquez sur les premières photos de l'attentat contre le Pentagone, et puis par la confusion et les contradictions des déclarations qui sont faites par les autorités américaines au sujet du World Trade Center. Vous décidez de mener une enquête et vous faites des découvertes qui sont assez terrifiantes, peut-être la plus grande manipulation de l'histoire, on pourrait dire, d'une certaine façon. Et ce que je veux préciser avant qu'on commence, c'est que vos découvertes sont uniquement fondées sur des documents de la Maison-Blanche et du département de la Défense américain.
Oui.
Fondées aussi sur les déclarations des dirigeants civils et militaires américains données à la presse internationale, donc parfaitement vérifiables.
Absolument. Tous les éléments sur lesquels je me suis appuyé sont vérifiables par n'importe qui.
Alors, vous mettez en doute la théorie selon laquelle les attentats du 11 septembre sont le fait d'ennemis intérieurs aux États-Unis et pas d'ennemis extérieurs. En fait, vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène destinée non pas à tuer, mais à frapper les esprits, à un complot intérieur organisé par le lobby militaire pour augmenter le budget de l'armement, et puis aussi par le lobby pétrolier pour faire passer ce fameux pipeline qui doit descendre de l'Asie centrale à travers l'Afghanistan jusqu'aux mers chaudes. C'est ce dont nous avait parlé Guillaume Dasquier, qui était venu ici et qui nous avait parlé de ça. Il a écrit un bouquin là-dessus, sur le pipeline qui vient d'Asie centrale. Voilà. Vous racontez tout ça dans un livre, Thierry Messant, qui s'appelle « 11 septembre 2001, l'effroyable imposture ». Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Alors, on va commencer par le Pentagone.
Oui.
L'avion qui s'est soi-disant écrasé sur le Pentagone a provoqué très très peu de dégâts finalement.
Alors, quand on regarde les photos qui sont disponibles sur cet attentat, qu'on se fonde d'abord sur les photos fournies par le département de la Défense et sur les photos diffusées par la société de presse juste après l'attentat, on peut constater qu'il y a une impossibilité matérielle pour que la version officielle fonctionne. Dans la version officielle, on nous raconte qu'un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, descend juste devant le bâtiment sur une pelouse qui se trouve à l'avant, frappe cette pelouse, rebondit, touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Donc, sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc, c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible.
Ouais. Et puis en plus, c'est bizarre qu'un avion se soit planté horizontalement dans une façade qui fait 24 mètres de haut.
Voilà, parce que si vous deviez attaquer le Pentagone en avion, vous tomberiez en piqué sur le Pentagone, c'est un bâtiment plat. Donc venir faire une manœuvre extrêmement complexe pour toucher un bâtiment bas sur la façade et du mauvais côté, c'est quand même une curieuse idée.
Donc vous dites, vous, on n'a jamais retrouvé l'épave de l'avion, en fait, on ne l'a jamais vu.
On n'a jamais trouvé le moindre morceau de cet avion, à l'exception des boîtes noires qu'on a exhibées avec beaucoup de retard.
Ouais.
Et puis, on aurait retrouvé, d'après le Pentagone, un phare de l'avion qu'on n'a jamais montré, mais enfin, on dit qu'on l'a retrouvé.
Ouais.
Et rien d'autre. Donc, c'est un avion qui se serait dématérialisé.
Ouais. Alors, il n'y a aucun photographe, aucune télé qui ont été autorisés à filmer la scène du crash. Les seules sources, c'est l'armée américaine.
Oui.
Alors, ils ont donné des explications successives et variables, et puis un mensonge en appelant un autre, comme ça. Mmh. Ils ont commencé à partir dans un délire, mais absolument incroyable.
Voilà, puis quand on replace dans la durée toutes leurs déclarations, ça devient un tel tissu de contradictions que ça s'effondre par soi-même.
Ouais. Et ce que vous ajoutez dans votre bouquin, c'est qu'en fait, l'aile du Pentagone sur laquelle l'avion est censé être tombé, enfin crashé, est un bâtiment en réfection.
Oui.
Donc il n'y avait personne dedans.
Il y avait le personnel de maintenance,
ouais.
Mais enfin, effectivement, il y avait très peu de monde par rapport aux autres ailes du Pentagone.
Ouais. Aucun corps retiré n'a été identifié par les familles des victimes.
Absolument. Les corps qu'on a retirés, ce sont les corps des personnels du Pentagone, enfin des personnels de maintenance qui ont été tués par l'attentat qui a eu lieu, mais qui n'est donc pas dû à un avion. Et par contre, les corps des victimes,